I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonsoir et bienvenue sur Séances Radio. On vous l'avait promis hier, on a eu un petit problème technique, mais on est là ce soir. Et vous entendrez Luc Besson qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être dans cette émission. Je l'ai rencontré il y a deux jours. Et donc, il nous parlera évidemment de Valérian et la cité des mille planètes. Il sera bien là. Vous avez des questions à poser à nous, puisque Besson, Luc, n'est pas en direct, mais vous n'hésitez pas. Nos blogueurs sont là, nos blogueuses plutôt. Claire Fayot pour le genou de Claire. Bonjour Claire.
Bonsoir.
Et puis Marla Singer pour Marla's Movies. Bonsoir Marla.
Bonsoir Bruno, bonsoir à tous.
Et notre invité, donc Luc Besson, vous l'attendrez tout à l'heure, il parlera bien sûr du film, de la façon dont il s'est fait, des effets spéciaux, des acteurs, du dessinateur et du scénariste, puisque tout ça est tiré évidemment de la bande dessinée célèbre. Et puis, une petite nouvelle chez nous, mais elle est bien là, Lola. Bonjour Lola.
Bonjour.
Vous nous expliquez, Lola, comment les auditeurs peuvent rentrer en relation avec nous et qu'ils n'hésitent pas surtout.
Absolument, vous pouvez nous retrouver et nous contacter sur les comptes Twitter et Facebook La Grande Séance, Séance Radio, pardon, et avec le hashtag La Grande Séance.
Merci Lola, super, et n'hésitez absolument pas. Évidemment, restez tout au long de l'émission, car il y a d'abord les tops et les flops, français et américains, vous allez voir, il y a des surprises. Nos blogueuses nous parleront de leur coup de cœur, leur coup de gueule de cette année et de ce qu'on attend pour cet été, qu'est-ce qu'il faut aller voir cet été. On parlera des événements évidemment à venir au niveau du cinéma. On parlera dans un débat justement à l'occasion de la sortie de Valérian, est-ce que le cinéma et la bande dessinée font bon ménage. On aura plein de choses à dire là-dessus et puis surtout restez jusqu'à la fin car il y a un blind test spécial Luc Besson et vous allez voir, ce sera à la fois facile et difficile. Et dans un instant, les tops et les flops du box-office.
La grande séance, le box-office.
Alors on a gagné une journée en faisant l'émission ce soir et tant mieux car on a une super 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 top côté américain puisque Moi, Moche et Méchant 3 qui est sorti hier a fait le meilleur démarrage tout film confondu depuis le début de l'année. 455 000 entrées en une journée, vous voyez ce que ça promet pour la semaine, plus de 2 millions d'entrées dans la semaine. Non seulement c'est le meilleur démarrage de l'année, mais c'est aussi le meilleur démarrage américain depuis 2 ans. Donc Moi, Moche et Méchant 3 a toujours la cote, oui. Malgré les critiques qui n'étaient pas très très bonnes, les critiques en France, Claire.
Oui, mais les mignons valent des millions, sans mauvais genou. Il faut voir le marketing autour de ces petits personnages jaunes, c'est incroyable et c'est vrai que c'est l'une des franchises qui plaît à tous, enfants et adultes.
Et on est content parce que l'un des initiateurs de ces personnages, c'est Pierre Coffin.
Cocorico, oui.
Cocorico, absolument. Ça, c'est pour le top américain. Pour le flop américain, je ne veux pas être très trop moqueur, mais ils sont tous ex aequo dans les flops. La Momie, qui plafonne après 3 semaines à 1 million et des poussières en entrée, pour un film avec notre ami Tom Cruise. Vous savez qu'Universal a voulu replonger dans ses archives pour repartir sur des films d'horreur, d'angoisse, etc. Ben, ça ne marche pas. Donc, il va falloir qu'ils révisent leur batterie. Malerte à Malibu, au bout de 2 semaines, 1 million et des poussières pareil, c'est pas le grand succès. Et puis, Transformers a démarré, au bout d'une semaine, il est à 800 000, peut-être un peu plus entré, c'est pas non plus le gros succès. Donc, ça veut dire, mais on le dit chaque année, après ça repart, que quand même les blockbusters s'épuisent un petit peu. Et que la recette de nous balancer les gros, gros blockbusters américains, ça marche pas toujours en tout cas. Pas toujours en France et pas tellement non plus aux États-Unis pour certains d'entre eux. On passe à la France. On va se débarrasser, entre guillemets, du flop. Il y en a plusieurs, mais je ne parlerai que d'un flop, que celui qui est le plus retentissant, Bad Buzz, de nos amis Eric et Quentin, qui marche pas bien, puisqu'il est autour de 50 000 entrées au bout de, je crois qu'il est sorti la semaine dernière,
ou même peut-être. 19,
ouais. Ouais, voilà. Donc, ça marche pas du tout. Voilà. Donc, je le dis avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour eux. Voilà, c'est, On peut être drôle à la télévision, mais peut-être moins au cinéma. Et puis dans les tops, alors il y a des petites comédies qui ont pas mal démarré, notamment Les Ex de Maurice Barthélémy, oui. Voilà, qui est autour de 300 000 entrées. J'avais remarqué qu'un autre ex des Robin des Bois, Pef, avec Mon Poussin, ça démarrait pas si mal que ça. Et puis c'est parce que ça me fait plaisir, parce qu'il y a des films comme ça qui démarrent lentement, mais qui après reprennent un peu du poil de la bête. Et ça a été le cas grâce aussi à la Fête du Cinéma. Ce qui nous lie de Cédric Lapiche.
Ça me fait très plaisir, Bruno. Franchement,
avait vraiment démarré marché, ouais. Très très doucement. Les gens sont pas habitués. Ils étaient habitués à la trilogie, l'Auberge espagnole, les poupées russes, le casse-tête chinois. Là, ça se passe en Bourgogne. C'est un très beau film, très émouvant. Eh bien, grâce à la Fête du Cinéma et au fait que ça marche très très bien au niveau du bouche à oreille, notamment en province, le film va vers les 600 000 entrées et donc va peut-être terminer sa carrière à 800 000 et peut-être plus. Pourquoi avec cet été, si on a envie de déguster du Bourgogne par l'intermédiaire du film et de voir une belle famille, une belle histoire, ben voilà, Ce qui nous lie de Cédric Lapiche, il fait partie des tops. Dans un instant, on se retrouve justement pour notre séquence avec les blogueuses.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Marla de Marla's Movies. Alors, on va commencer par les coups de cœur de 2016. Qu'est-ce qui vous a plu cette année ?
Alors, on revient au tout début de l'année, en janvier, avec Nocturnal Animals de Tom Ford, qui pour moi est pour l'instant le meilleur film de l'année, donc ça remonte à janvier. Et oui, pour l'instant, on n'est qu'en juillet, donc j'attends bien sûr de voir décembre les autres coups de cœur. Mais Nocturnal Animals, c'est magnifique, c'est très bien écrit, il y a tout un jeu sur l'écriture, l'écrivain, une femme comme ça qui lit dans un roman de son ex-mari sa propre histoire, et j'en dis pas plus, c'est formidable.
C'est bien, on va pouvoir le rattraper en DVD ou en streaming. Lion.
Oui, il y a Lion aussi, absolument, qui a été, enfin, qui aurait pu être récompensé aux Oscars.
De six la nominations.
Oui, et puis même pour la récompense suprême au milieu de. De justement La La Land et puis Moonlight qui a finalement in extremis eu son prix. Lion, c'est la belle histoire d'un petit garçon indien qui est perdu et qui prend le train par erreur pour vouloir retrouver son frère et se retrouve malheureusement à l'autre bout de l'Inde, à l'autre bout du pays. Donc un enfant perdu à qui il arrive des choses extraordinaires.
Vous avez versé votre petite larme.
Complètement.
Ouais, moi j'avais des réserves.
Ah oui.
Oui, j'avais des réserves parce que j'avais trouvé que la première moitié du film était bien, mais que il s'encalminait un peu, si on peut dire, pendant toute la recherche sur Internet. C'était presque une publicité pour Google, et là ça tombait un peu, ça patinait un petit peu quand même.
Oui.
Vous n'êtes pas d'accord ?
Un petit peu. Il y a un joli couple avec Dev Patel et Rooney Mara qui met un peu de piment là-dedans. C'est vrai que je suis plus touchée par le petit garçon que par Dev Patel dans ce film-là, que j'aime pourtant beaucoup ailleurs. Mais je trouve quand même que c'est une belle histoire de retour aux sources, de retour chez soi. Et la fin m'a rappelé, sans spoiler.
Je vois que Claire acquiesce.
Alors, ça m'a rappelé La Couleur Pourpre.
C'est ça, mais c'est aussi une très belle histoire vraie sur l'adoption. Et le personnage de Nicole Kidman, tu n'en as pas encore parlé, est extraordinaire, je trouve. Voilà, donc c'est cet aspect-là aussi qui m'a vraiment
Nicole
plu.
Kidman, qu'on continue à voir beaucoup au cinéma, puisqu'elle était deux ou trois fois à Cannes. Qu'elle était dans Lyon, c'est une actrice qui bosse. Alors, qui bosse grave. Vous avez vu la transition?
Qui bosse grave, oui. Alors, on fait la transition qu'on peut, effectivement. Et en plus, c'est une transition qui n'est pas facile, puisque grave n'a rien à voir avec Lyon, qui est vraiment le drame très joli, etc. Mais grave, c'est un film d'horreur. Oui.
Il sort en DVD, là, actuellement. J'ai reçu le DVD, moi.
Absolument. Alors, qui a été auréolé de prix, ça fait plaisir. Pour la réalisatrice, Julia Ducournau, qui a beaucoup, beaucoup de talent, c'est un premier film et c'est vraiment le coup de maître. Il faut, alors je dis sur mon blog Marla's Movies, âme sensible s'abstenir pour celui-là.
C'est un peu rude.
Parce qu'il est quand même très cru.
Il est carnivore. C'est l'histoire de, c'est très psychanalytique. C'est l'histoire d'une dévoration. C'est très fort. C'est très abouti. Vous voyez, je vais faire une comparaison osée, mais il y a un autre premier film qu'on a vu récemment de Léa Misus qui s'appelle Ava, qui est très beau aussi, très fort aussi, mais que je trouve moins abouti. Grave, je trouve qu'il est abouti de A à Z. Il n'y a rien à reprocher au film. Voilà, il est très bien filmé.
C'est terrible.
Et puis, Je ne suis pas votre nègre, celui-là, je ne l'ai pas vu, chère Marla.
Alors, il faut voir Je ne suis pas votre nègre. En anglais, ça donne I am not your Negro. Au départ, c'était un documentaire d'Arte, extrêmement réussi, où on découvre un activiste noir On connaît Martin Luther King, on connaît Malcolm X, et là vous découvrez un poète nouveau. Là, ça me revient pas son nom, zut. Baldwin, James Baldwin.
James Baldwin.
Donc un homme extraordinaire qui s'est défendu lui aussi pour les droits des Noirs. Et le documentaire est très intelligemment commenté, c'est-à-dire qu'on a en VO la voix de Samuel L. Jackson et en VF, surprise, Joey Starr qui se défend extrêmement bien dans le doublage, effectivement, de cette voix off qui va nous amener au cœur du Black is Beautiful, de ce combat des Noirs donc dans les la lutte pour les droits civiques, et c'est passionnant.
C'est génial, donc voilà. Y a de quoi rattraper quelques films qui sont sortis cette année. Et vous avez quelques coups de gueule.
Oui, oui, hélas. Alors le récent Baywatch, on va pas en parler trop
longtemps. L'alerte à Malibu.
On va pas lui faire trop de pub parce que même quand on en parle en mal, on en parle quand même. Donc on va y aller. On va y aller brièvement. Si vous aimez les hommes musclés et les jeunes filles en maillot de bain rouge, c'est bien. Pour les autres, il y a plein d'autres films à voir. Alors, je suis une des rares blogueuses sur la blogosphère à ne pas avoir aimé Split de Shyamalan, qui est le dernier opus donc de ce grand réalisateur de thrillers à qui l'on doit Le Sixième Sens, incassable, qui sont des thrillers extraordinaires. Et là, tout à coup, Split,
c'est pas le premier ratage qu'il fait, hein.
Hélas. Ouais. Depuis Le Village, je trouve qu'il a pas fait grand chose.
J'avais détesté le film avec le père et le fils Will Smith et son fils. J'avais pas compris, j'avais pas.
Non, mais ça marche. Bien. Donc ce Split, c'est raté.
Hélas.
Alors là, je suis pas du tout d'accord avec vous.
Ah non.
On va sauter, mais on va revenir au fantôme d'Ismaël. Mais Orpheline, vous n'avez pas aimé.
Alors Orpheline.
D'Arnaud Despalières, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait.
Ah, c'est un film fort.
Oui, alors je voulais vraiment le voir et tout. J'avais été invitée à la Projo et tout. Et Arnaud Despalières, je suis très fan d'un documentaire qu'il a fait en 2010, qui est très peu connu, qui s'appelle Disneyland, mon vieux pays rêvé, qui est un documentaire sur Disneyland, un voyage intime de Disneyland, très bien raconté, là aussi avec une voix off extrêmement intelligente. Et tout à coup, Orpheline, même si je suis très amoureuse d'Adèle Haenel, très amoureuse d'Adèle Exarchopoulos, là vraiment, j'ai trouvé ça peut-être trop sombre.
Et c'est
vrai,
c'est sombre.
Ça m'a pas parlé, c'est vrai.
Ah, moi je trouve ça sombre. Claire,
je l'ai vu également et cela m'a mis, mais vraiment, j'ai été très mal à l'aise en voyant ce film.
Mais c'est bien, il y a des chefs-d'œuvre qui mettent
bousculé.
Mal à l'aise.
Oui, mais non.
Ça m'a bousculé,
j'ai senti,
mis mal à l'aise. C'est sombre, c'est une histoire de femmes, c'est une histoire d'oppression. Ouais. De femmes qui ont été opprimées, et je trouve que c'est bien dessiné, voilà, que ces destins qui se croisent avec la petite fille à la fin, voilà, vous le
ça m'est mal à l'aise, mais j'ai trouvé que c'était un peu complaisant. Peut-être qu'il faut que je le voie à tête reposée, mais
moi j'ai pas trouvé ça complaisant. En plus les actrices sont super bien,
mais il y a une certaine sécheresse de toute façon dans le cinéma, je sais pas si on peut dire ça, mais une certaine sécheresse dans rigueur dans l'œuvre de ce cinéaste, et je pense à Michael Colas, que par contre j'avais adoré.
Ah oui,
Avec Leslie Mickelson, très
oui,
joli.
Donc Les Fantômes d'Ismaël, on va pas s'étendre, c'est pas réussi, mais
oui,
bon, on va pas.
Ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal, alors bon, après, Des Péchins, c'est pas mon préféré, c'est vrai que j'ai déjà eu du mal avec Trois Souvenirs de ma jeunesse, qui pourtant avait été très bien défendu par une de mes co-rédactrices sur le blog, mais je dois dire que Les Fantômes d'Ismaël, je me suis ennuyée et j'ai eu du mal à suivre, ce qui était assez rare.
C'est un film trop riche, on va dire.
Ah, moi j'ai une question, Bruno, quelle version avez-vous vue?
Parce que moi j'ai vu la version normale, pas la version longue.
Parce qu'il paraît que la version longue qui est diffusée, qui sera encore diffusée au cinéma du Panthéon,
d'Arnaud Desplechin.
On comprend mieux certaines choses.
Oui, elle est diffusée, absolument.
Voilà.
Ouais.
Donc moi j'ai vu la version courte.
On a forcé Arnaud Desplechin à couper avant le Festival de Cannes, et c'est dommage.
C'était pas un service à lui rendre, je pense.
Non, il faudra voir la version longue.
Parce que c'est la partie, moi personnellement, je trouve que c'est la transition entre les différentes intrigues, on va dire ça comme ça, qui gêne un peu, alors que si c'était plus développé, ou si carrément on partait dans le récit de l'espionnage, là j'aurais adhéré à 100%.
Les attentes de cet été?
Alors il y en a plusieurs de mon côté, je vais laisser Claire aussi intervenir bien sûr. Alors le 12 juillet, il y a The Circle, le cercle, avec Emma Watson. Ça parle d'une jeune fille qui a 24 ans et qui travaille pour la première fois dans une entreprise qui ressemble beaucoup à Google ou à Facebook.
Ah ouais, j'ai entendu
un géant de l'informatique. Le livre, je suis en train de le lire, est formidable. Le film est assez bien fait, il est assez intelligemment fait. C'est un point de vue qu'on ne voit pas souvent au cinéma, où c'est un film un peu orwellien, où on va vous parler de la domination des écrans, comme ça, dans nos sociétés, un peu comme Black Mirror, pour ceux qui aiment la série télévisée.
Pardon, Marla, il est sorti quand, le livre? C'est un livre qui est sorti il y a un an ou deux ans?
Oui, c'est tout jeune, il date de 2013.
Ah, 2013, d'accord.
Et c'est un bon bouquin de Dave Eggers.
Ouais, c'est comme un polar, alors.
Oui.
C'est comme un polar.
Alors, c'est pas écrit comme un polar, c'est un peu écrit comme une dystopie, pour ceux qui aiment The Hunger Games, ou qui aiment Divergente, mais c'est beaucoup plus intelligent que ça, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on se met du côté d'une jeune fille qui est, elle, pour la transparence totale. Contrairement aux personnages dont on a l'habitude chez Orwell, par exemple, là, pour le coup, elle est pour le partage total, la transparence totale, tout montrer de sa vie en vidéo, et peut-être qu'elle va le payer cher.
Ah, excellent. À la recherche des femmes chefs.
À la recherche des femmes chefs, oui, je l'attends, et en même temps, il est sorti hier, donc je vais pouvoir y aller, évidemment.
C'est un documentaire sur les femmes qui vont à la cuisine.
Oui, qui sont chefs cuisiniers, absolument. Alors, les femmes à la cuisine, ça, c'est le vieux cliché sexiste, mais c'est drôle parce que quand on parle des chefs cuisiniers, on ne parle quasiment que des hommes, très peu des femmes.
Alain Ducasse va voir son documentaire bientôt.
Voilà, absolument. On ne pense pas à ces femmes qui savent cuisiner. Il y a le Festin de Babette qui est une fiction et qui nous parle de ça. Mais finalement, est-ce que vous pouvez citer autour de la table des femmes chefs?
Non.
Eh bien,
Oui. Ah. Si, mais j'ai un trou de mémoire. Elle est connue à Paris, là.
Oui, ça ne va pas m'aider.
Madame Darroze.
Voilà, Hélène Darroze.
Hélène Darroze.
On connaît qu'elle.
C'est drôle parce que pour les chefs cuisiniers, il y a tout de suite.
Elle était dans Top Chef, Hélène Darroze, non?
Ouh là là. Je ne regarde pas cette émission.
Mais moi, je regarde Top Chef.
On a une confession de Bruno ce soir.
Je regarde parce que quelqu'un d'autre regarde, mais franchement. Bon, bref, je préfère The Voice. Midnight Sun.
Midnight Sun, alors ça c'est pas très connu, au départ c'est un film japonais, Midnight Sun, et ça parle d'une jeune fille, hélas, allergique au soleil.
Ah, c'est pas possible.
Et oui, tout à fait, ça veut dire que dès qu'elle sort et qu'elle a les rayons UV, elle brûle au sens très littéral, et la bonne nouvelle c'est qu'elle rencontre un jeune homme, elle le rencontre le soir bien sûr, et ils vont avoir un été nocturne tout à fait passionnant.
C'est des vampires quoi, non?
Non, alors elle vit comme un vampire, mais apparemment c'en est pas une, et c'est une belle comédie romantique apparemment.
Merci Marla. Claire Fayot du Genou de Claire, vous attendez Valérian, entre autres.
Et oui.
Voilà, alors,
pour quelle raison? Eh bien, d'abord parce que c'est une adaptation de bande dessinée, et aussi pour l'implication, à la fois l'investissement, j'allais dire, à la fois financier et personnel de Luc Besson sur ce projet, et les effets spéciaux. Puis vraiment, j'ai vu l'exposition qui traite de la bande dessinée et des aspects scientifiques imaginés par Christin et Mézières, et ça a l'air intéressant.
Alors je vous appellerai dès que vous aurez vu le film, j'aurais envie de connaître vos commentaires. Office de Jonito, c'est un polar.
C'est un polar, mais ça a l'air d'être un truc complètement fou. Alors Jonito, c'est quand même un réalisateur hongkongais extrêmement éclectique. Enfin, je trouve. Et là, c'est un thriller, un polar, mais en comédie musicale. Sur, je ne sais pas si vous avez vu The Big Short, le casse du siècle.
Oui.
Eh ben, c'est ça. C'est une réponse à The Big Short, donc la crise des subprimes, mais vue à la sauce hongkongaise et en musique.
Incroyable.
Donc
c'est très attendu. Vous l'attendez?
Bah, je l'attends.
Vous êtes curieuse.
Je pense que ça va pas forcément attirer tout le monde, mais moi ça m'intrigue énormément.
120 vêtements par minute, le film de Robin Campillo qui a eu le Grand Prix du Jury à Cannes.
Et voilà. Et ben je l'ai vu entre temps.
Ah. C'est beau.
Oui, c'est beau. Maintenant j'ai une réserve sur la dernière partie et le traitement de l'histoire d'amour avec certaines scènes qui sont un peu triviales, qui m'ont un peu sorti. Oui, c'est long, c'est long. La dernière partie, les plans sont étirés, tout est étiré, et c'est dommage parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adhéré à
l'histoire. Le film fait 2h20,
je crois.
Ouais,
oui,
ça fait long.
Le film est bouleversant. Moi, je trouve que la dernière partie est très, très belle et qu'il ne faut rien enlever à la dernière partie. Maintenant, il y a comme ça des ponts musicaux avec les scènes en boîte. Puis les scènes qui sont dans l'amphi, tout ça, il y a peut-être un petit peu des longueurs, mais bon, ça reste un beau film.
Et c'est un film aussi sur l'engagement, sur le sur le discours, communication. Comment c'est incroyable de voir comment les militants d'ACT UP communiquaient entre eux.
Oui, on n'a pas rappelé évidemment aux auditeurs qui n'ont pas tous suivi Cannes que c'est l'histoire des militants d'ACT UP à la fin des années au début des années 80, 90, au moment où on découvrait le SIDA, qui ont voulu un peu réveiller les consciences. Pour faire comprendre que le sida était une maladie extrêmement dangereuse, et voilà, c'est leur combat, leurs amours, leur combat, et c'est très beau.
Belle mise en scène et des acteurs remarquables.
Alors deux reprises, le lauréat, et oui, ça ne rajeunit pas, 50 ans. c'est ça? 50 ans, 1967, un demi-siècle.
Mais oui, mais oui. Alors, c'est l'histoire de Benjamin Braddock.
Normalement, vous n'étiez pas né, vous ne l'avez pas vu.
Ah oui, mais j'adore. J'adore la musique de Simon & Garfunkel.
Génial. C'est, Sounds of Silence.
Une prof de fac qui nous avait, qui nous l'avait fait voir.
Mrs. Robinson.
La cougar avant l'heure.
Oui.
Donc, c'est l'histoire de Benjamin Braddock, un jeune étudiant qui ne sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie. Et lors d'une soirée, il fait la rencontre de Mrs. Robinson, de la femme de du patron de son père, et peut-être futur patron. Et cette femme entreprend de le séduire. Mais problème, il va aussi tomber amoureux de sa fille.
C'est un film superbe. Moi, j'avais
des plans magnifiques.
Quel âge quand je l'ai vu, mais je l'ai vu au sortir de l'adolescence et j'ai trouvé ça génial. C'est un film culte.
Voilà,
moi.
Donc là c'est la version restaurée. Il y a des plans magnifiques. Le début, par exemple, aurait inspiré Tarantino pour son Jackie Brown.
Et vous savez, dans le 33 tours en vinyle, puisque moi j'ai connu les vinyles, j'en rachète pas maintenant, mais j'ai connu les vinyles quand ils sortaient, c'était une jambe. D'ailleurs, c'était pas la jambe en fait de l'actrice, c'était une jambe du mannequin, voilà. C'est la jambe de Mrs. Robinson.
Anne Bancroft était tant très belle.
Simon & Garfunkel qui sont magnifiques, c'est un 33 tours comme on disait à l'époque.
Sound of Silence.
Qui est magnifique. Non, mais c'est un super film. Puis alors, ça fait super drôle de voir à Cannes dans le film dans Meyerowitz Story de Sinophane qui a genre 75 ans et de le revoir à 30 ans. Dans ce film-là, Le Lauréat, qui est un film cultissime. Ça, c'est génial. Et puis, un autre film culte, mais plus français, celui-là, oui. L'Emmerdeur.
Alors, L'Emmerdeur, avec un casting de choc, Lino Ventura, Jacques Brel, c'est la rencontre fortuite entre un certain Monsieur Milan, qui est un tueur à gages, donc qui est interprété par Lino Ventura, un acteur que j'apprécie énormément. Et ce tueur à gages doit donc tuer quelqu'un et exécuter son contrat, et il en est empêché par son voisin de chambre d'hôtel,
qui est un emmerdeur. Le scénario était de Francis Weber.
Exactement.
Oui, celui du dîner de con.
Et donc,
et
c'est François
Fillon. Le metteur en scène, c'était Molinaro, non, je crois.
Oui, c'est ça. Je n'ai pas dit la date. C'est sorti en France le 20 septembre 1973.
Ah ouais.
Et le réalisateur, effectivement, Édouard Molinaro.
Avec un scénario de Francis Weber qui nous a ravis avec tous ses films qu'il a réalisés lui-même.
Et donc, L'Emmerdeur, c'est François Pignon, alias Jacques
Brel. François Pignon. Et d'ailleurs, L'Emmerdeur a été repris au théâtre et tout ça. C'est vraiment une histoire culte, L'Emmerdeur.
Il y a eu une version avec Richard Berry qui était très réussie il y a quelques années. Ils l'ont repris plusieurs fois, tout le site, dans le rôle de L'Emmerdeur.
Merci Marla et Claire pour tous ces conseils. Dans un instant, notre séquence invitée.
La grande séance, l'interview.
Donc ça s'est passé il y a quelques jours à la Cité du Cinéma. Nous sommes quelques privilégiés à avoir vu Valérian à la Cité des Mille Planètes. Vous savez que c'est tiré de la célèbrissime BD qui est parue en 1967 dans Pilote. Imaginé par Pierre Christin au scénario, dessiné par Jean-Claude Mézières, qui sont devenus évidemment les copains de Luc Besson, même s'il y a une génération d'écart. Et Luc Besson, c'était un projet qu'il avait depuis très 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 longtemps, depuis tout jeune, il va le raconter. Et il a réussi à faire ce film incroyable, qui dure un peu plus de 2 heures. Je crois qu'il s'est inspiré d'un ou de 2 albums, avec deux acteurs. Alors c'est un film français, mais en langue anglaise, avec Dendian et Clara Delavine, qui jouent Valérian et Laureline, qui sont deux agents spatio-temporels qui peuvent traverser les planètes, etc., et qui doivent combattre, un peu comme dans Star Wars, pour réussir à déjouer les complots qui pèsent sur les différentes planètes. Donc je vous passe les détails. J'ai rencontré Luc Besson dans sa superbe Cité du Cinéma, la cathédrale de nef et d'acier, et la première question que je lui ai posée, c'est, après cette longue aventure, parce que c'était un rêve d'enfant de faire ce film, comment il se sent?
C'est fini. Voilà, j'ai terminé le Tour de France. Donc déjà, j'ai réussi à le faire. Donc non, je suis vraiment heureux d'avoir pu le faire et de le finir surtout. Donc le film maintenant, dans quelques jours, ne m'appartiendra plus. Et je suis heureux de le partager, vraiment. Mais c'est vraiment la satisfaction d'avoir réussi ce périple, en fait.
C'est lourd. Je me souviens qu'à l'époque du Cinquième Élément, je vous avais interviewé, vous parliez d'un capitaine qui doit gérer un navire dans la tempête et arriver à bon port. Quand on est devant une masse de travail pareille, on n'est pas trop impressionné?
Je pense qu'il faut se mettre des œillères, il faut faire comme avec les chevaux. Pour pas qu'ils s'affolent, il faut leur mettre un sac sur la tête. Donc tous les matins, j'ai des œillères et il faut regarder le film au niveau de la journée. C'est-à-dire, voilà la journée que j'ai à faire. Est-ce que je sais faire 15 plans dans la journée? Oui, je sais le faire. Est-ce que je sais gérer mes acteurs sur une journée? Oui, je sais le faire. Demain est un autre jour. Et on essaye simplement de faire le maximum dans cette journée-là. Généralement, on est épuisé le soir. Et le lendemain, il y en a une autre qui commence. Et je pense que si à un moment donné, on enlève ses œillères et qu'on regarde la taille du film, je pense qu'on a une crise cardiaque et qu'on arrête tout. Donc il faut surtout pas lever la tête. Surtout pas lever la tête et vraiment travailler comme une fourmi, une petite pierre par une petite pierre, et surtout ne pas trop, ne pas trop réfléchir et en fait simplement ramener la taille du film à une taille humaine de ce qu'on est capable de faire dans une journée.
C'est bien de pouvoir réaliser ses rêves. Vous étiez gamin, vous lisez une BD, vous attendez chaque semaine pour avoir la suite, vous voyez qu'elle est signée par des messieurs que vous connaissez pas. Pierre Christin, Jean-Claude Mézières, et une trentaine d'années après, vous êtes amis avec eux, vous travaillez avec eux, et vous portez cette BD que vous adoriez au cinéma. C'est magnifique.
Oui, c'est une belle histoire. Oui. C'est une belle histoire. Ils font le premier dessin de Valérian il y a 50 ans, à peu près. Et là, il y a 3 semaines, j'ai pris une... dans la salle de cinéma qui fait 400 places, on a fait une projection pour les deux. Ils ont près de 80 ans tous les deux, ils se sont assis côte à côte au milieu du cinéma tout seuls. J'étais moi très ému, eux aussi d'ailleurs, et je les ai regardés pendant 2 heures, regarder le film. et c'était très émouvant, c'était vraiment très émouvant de... Je pense que leur rêve aussi à eux, c'était de se dire « Ah, qu'est-ce que ça serait bien un jour que Valérian soit un film ?» Et leur rêve, c'est aussi à eux réalisé. Donc c'est une belle histoire.
À la fin des années 60, au début des années 70, quand vous avez découvert la BD dans Pilote, c'était quelque chose de très moderne, cette bande dessinée.
Très moderne, et rappelons-nous simplement qu'à cette époque, il y a une chaîne de télé en noir et blanc. Il n'y a pas Internet, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de musique chez moi, d'ailleurs. Il n'y a pas de Walkman, il n'y a pas tout ça. Et 2 pages d'agents spatio-temporels qui voyagent dans le temps et dans l'espace, c'était une porte ouverte sur le rêve et sur une fuite. C'est-à-dire qu'on peut, à 10 ans, on pouvait s'échapper grâce à ça. Puisque c'est une époque où je n'ai même pas de mobylette. Donc je peux même pas aller, me promener. Je suis encore à la maison et c'est long. J'attends ces 2 pages qui sont dans Pilote, je les attends pendant 6 jours, parce que c'est une fois par semaine, et j'attends avec une impatience débordante. J'attends ces 2 pages, j'ai même le souvenir vraiment de rentrer à la maison avec le pilote, de le mettre à côté, de finir mes devoirs, de ranger mon bureau, de fermer la porte à clé, et de tourner les pages, et de vraiment déguster mes 2 pages... que j'avais donc 6 jours pour relire 153 fois, puisqu'il n'y a que ça à faire. Donc c'est vraiment des beaux souvenirs, parce que c'est l'apprentissage de la patience, du désir aussi, et c'est une belle façon d'apprendre ces 2 choses.
On se retrouve dans un instant avec Luc Besson. En attendant, justement, on écoute un extrait de la bande originale de Valérian et les Cités des Mille Planètes, c'est David Bowie.
Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Now it's time to
to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. In a tin can.
Ah, c'est un extrait de la bande originale du film Valérian et la cité des mille planètes. C'est de la musique qu'on entend au tout début du film. Magnifique. On va retrouver Luc Besson dans un instant. Mais en attendant, Lola, comment peut-on communiquer avec nous, avec cette émission, La Grande Séance ?
Eh ben, vous pouvez toujours nous retrouver et nous contacter, échanger avec nous sur les comptes Twitter et Facebook Séance Radio. Et avec le hashtag également, La Grande Séance.
Merci beaucoup. Donc, ce cher Luc Besson qui était à la Cité du Cinéma et qui parlait de son film, on en parlait à l'instant, la façon dont il a découvert la BD, l'attente, son plaisir, son désir. Évidemment, j'ai posé la question, comment il a choisi ses acteurs? Parce qu'il a choisi deux acteurs anglo-saxons, Dan Diane, qu'on avait vu d'ailleurs dans James Dean, et puis Laureline, et c'était compliqué pour lui parce qu'il les avait en tête, ces personnages. Comment il a choisi ses acteurs?
D'abord, ils sont assez anti-héros dès le départ, et en tout cas c'est pas des super-héros. Ils ont pas de super pouvoir, ils ont pas de collant rose. Ce qui est assez amusant, c'est que je connais tellement bien Valérian et Laureline, je les connais, c'est des gens que je connais. Donc ça a été assez facile de choisir l'acteur et l'actrice, parce qu'il a suffi que je rencontre des comédiens. Et il y a un moment donné où j'ai reconnu Valérian dans Dane, tout de suite. Voilà, c'est son regard bleu, son sourire en coin. Il a une voix assez basse, il parle un peu comme ça. Il a l'air un peu espiègle, il était vraiment un Valérian parfait. Et puis, quelques jours plus tard, je rencontre physiquement déjà Cara, qui ressemble quand même beaucoup à Laureline, et qui a un caractère de kangourou, qui a une énergie débordante, qui est moderne, qui est une femme de son temps, et qui est parfaite pour Valérian. Et on se pose plus de questions. À partir du moment où on sait que c'est eux, en fait, la seule question qu'on se pose, c'est qu'on attend le moment de les voir ensemble pour être sûr que ça matche. Parce que là, par contre, des fois, on a des surprises. Il y en a un qui a des yeux très foncés, l'autre très clair. Il y en a un qui a un timbre trop bas par rapport à l'autre. Il y en a un qui fait 1m50, l'autre qui fait 1m80. Il y a des fois des critères qui font que même si l'acteur et l'actrice sont très bons, ils ne matchent pas forcément. Et alors là, il n'y a rien de pire. Là, le film n'est pas possible à faire. Et donc, j'ai réussi à réunir Cara et Dan dans la même pièce. Et au bout de 30 secondes, je suis parti dans la cuisine me faire un thé parce que c'était fini l'histoire. Ça matchait tout de suite. C'est vraiment le pied qui trouve la chaussure à sa taille. C'était incroyable.
Dans le film, il y a évidemment toutes ces créatures, tous ces personnages, et ils sont pas tous dans la BD, donc c'est l'imagination là qui vous porte.
C'est pas forcément l'imagination, c'est un groupe de créateurs que on a eu à peu près 2000 candidatures, on en a récupéré 15, on a vraiment fait travailler les meilleurs. Ils se sont bien sûr imprégnés du monde de Christin et de Mézières, et après c'est des jeunes créatifs à qui on a laissé un champ d'action énorme, puisque la première année de travail, ils ont même pas le script, ils sont vraiment en période de recherche, d'exploration, et c'est eux qui ont créé des centaines et des centaines d'aliens, de mondes, pour donner cette espèce de chair, de tissu, de richesse. C'est un peu comme si on allait, avant de cuisiner, on allait d'abord au marché et qu'on essayait de récupérer, on sait pas encore si on va faire du poisson, de la viande, des légumes, mais on achète un peu de tout, on s'ouvre à des épices orientales, on s'ouvre à des produits de la mer, des produits de la montagne, on revient chez soi, on a le frigo à ras-bord, et après, au bout d'un an, on décide, on fait, ok, alors, on va faire quoi à dîner maintenant?
BNP Paribas, qui est un grand argentier du cinéma, vous avez aidé, vous aviez collaboré avec eux pour Arthur et les Minimoy, ça a été une nouvelle aventure avec eux, au point que des gens ont pu voir les coulisses du tournage, etc. C'est important d'avoir quelqu'un qui vous soutient?
C'est très important, et je suis assez fidèle, c'est-à-dire que ça s'était vraiment très bien passé sur Arthur. on avait une vraie collaboration, on a eu des vrais échanges, et donc assez naturellement, je vais pas aller voir à tous les films, mais à chaque fois qu'il y a un film un peu challenging, c'est aussi important d'avoir une banque qui soutient, qui vous soutient pas de temps en temps, mais qui, dès que vous avez vraiment un esprit d'entreprise et une ambition, qui soit là pour vous. Ça a été le cas, ils ont été là. Et après, on a essayé de voir comment on pouvait s'échanger des choses. Et il y a eu cette idée que j'ai eue. J'ai dit, bah, écoutez, on a qu'à inviter des clients BNP, on a qu'à faire un petit concours. Il y a tellement de monde sur le plateau, hein, on est à peu près 900 toute la journée. Donc, 3-4 invités qui viennent pendant une heure, c'est pas très, très gênant. Donc, on a organisé tout un petit truc. Et tous les jours, il y avait 3-4 clients BNP qui venaient un peu de la France entière. Ce qui était très drôle parce que ça venait de Strasbourg, de Grenoble, de partout. La plupart du temps, ils n'avaient jamais été sur un tournage de leur vie. Et donc, ils venaient en témoin comme ça, passer une heure sur le plateau. Alors, des fois, ça tombait pas très, très bien parce que c'était très tendu, il y avait plein de choses à faire. Et puis, des fois, il y avait un peu plus le temps. En tout cas, je crois que ça leur a fait des beaux souvenirs.
Toute dernière question. Dans un an, ce sera les 30 ans, j'ai calculé, du Grand Bleu. Je me souviens que vous avez interviewé à l'époque. 30 ans, ça ne rajeunit pas. Vous êtes content du parcours? Content? Regret? Qu'est-ce que vous ressentez ces 30 ans passés? Question spectrale, hein.
Alors moi, je ne me pose aucune question. J'attends d'avoir 75 ans, d'être au bord du feu, avec Eric Serra et Jean Reno. Et on commencera à se poser des questions en disant « Alors, tu te souviens quoi ?» Voilà, pour l'instant, je suis pas du tout... je suis en action, j'essaie d'avancer. J'ai encore la pêche pour faire des choses, donc j'essaie de les faire. Et je n'ai absolument pas de rétroviseur. Donc je m'en installerai un, promis, d'ici une dizaine d'années.
Merci, Luc.
Et donc, on vient de parler de ce partenariat qui est important, puisque BNP Paribas a beaucoup aidé à faire ce film. Betty Mourao a rencontré Alia Ouabdeselam, qui est responsable des partenariats de BNP Paribas, lui a demandé c'était quoi l'enjeu.
Il y a tout d'abord finalement l'histoire qu'on a avec Luc Besson qui date de plusieurs années puisqu'on était déjà à ses côtés pour son film Arthur et les Minimoys. Il y a un deuxième point qui est que ce film est par le budget la plus grande production cinématographique européenne. Nous sommes la banque européenne du cinéma. Il y a l'aspect très innovant dans ce film, tant dans la façon dont il a été réalisé que dans la façon dont Luc Besson a choisi de diriger aussi cette production. Il y a 70% du film sont en effets spéciaux. Luc Besson a fait de l'open innovation pour créer les costumes du film, voilà, en créant des challenges sur Internet. Nous sommes clairement la banque de l'innovation. En tout cas, c'est un élément important de notre ADN de marque.
C'est pour ça que l'aspect science-fiction, c'était un peu... parce que ça paraît inattendu, du coup. Mais
Voilà, exactement. Donc, la science-fiction, ça paraît inattendu, mais pas que. BNP Paribas, c'est la banque d'un monde qui change. Et finalement, la science-fiction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle anticipe le futur. Donc, quand on se dit banque d'un monde qui change, on a de fait... cette capacité d'anticipation et d'accompagnement dans la durée de tous nos publics. Et puis, il y a dans le film, finalement, un bon nombre de valeurs qui sont partagées par BNP Paribas, comme la diversité. Il y a une multitude d'aliens qui cohabitent dans Valérian. Il y a le rôle de la femme qui est important aussi avec Laureline. Donc voilà, tous ces éléments, finalement, nous ont amené à répondre favorablement à la sollicitation de Luc Besson. Et puis, il y a aussi un élément, c'est qu'on est la banque des entrepreneurs et qu'on se doit de soutenir des entrepreneurs dans leurs projets les plus ambitieux qu'ils soient. Alors, c'est un partenariat spécial parce que le film est lui aussi spécial. Je le disais tout à l'heure, c'est finalement la plus grande production européenne jamais réalisée. C'est 180 millions de dollars de budget de film, ce qui est assez conséquent, effectivement. Après réflexion, une fois qu'on a trouvé finalement de la cohérence dans le projet, on a fait le choix, pour la première fois dans notre histoire de cinéma, d'investir en fonds propres
Ça veut dire quoi, investir en fonds propres dans un film?
Ben, c'est-à-dire apporter de l'argent, donc là en l'occurrence c'est 10 millions d'euros qui ont été apportés, dans la production du film. On est vraiment, on rentre au capital du film et on apporte des moyens financiers pour que le film voilà, se monte. En l'échange de quoi? On peut naturellement activer un partenariat et on a eu une collaboration, on a une collaboration avec les équipes d'Europa Corp et les équipes de Luc Besson qui est fantastique.
Voilà, c'était Alia Ouabdeslam qui était au micro de Betty Mourao. Dans un instant, on se retrouve pour la séquence événements.
Les événements cinéma sont dans la grande séance.
Donc, parmi les événements cinéma à venir, du 11 au 17 juillet, il y a un grand festival international de cinéma de Marseille qui accueille 150 cinéastes, des producteurs, des comédiens. Cette année, il y aura beaucoup de séries B, avec un hommage au grand maître de la série B, Roger Corman, qui était une légende à Hollywood. Il y aura 31 films qui représenteront 22 pays, la plupart sont des inédits, donc c'est un festival important. Il y aura des documentaires, des fictions, des rencontres évidemment avec les réalisateurs, les comédiens, les critiques de cinéma, les invités. Il y aura des courts-métrages également, et puis ce festival donne à voir évidemment plein de formes cinématographiques différentes, c'est ce qui fait sa particularité. Et puis, là, c'est un peu plus tard quand même, puisque c'est à la fin du mois d'août, du 22 au 27 août, le festival de Dominique Besdéard et de Marie-France Brière, le fameux festival du film francophone d'Angoulême, qui revient, 22 donc au 27 août, c'est le mardi 22 au dimanche 27 août. Vous savez que c'est un festival qui est devenu important, puisqu'on voit plein de films français et francophones qu'on va voir dans les 3, 4, 5 prochains mois sortir en France. Il y aura un film très attendu en ouverture du festival, Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel, qu'on attend depuis longtemps, l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre. On va voir plein de films inédits, bien sûr, et notamment Bonne Pomme de Florence Quentin avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, qui se retrouvent, on les avait vus dans le film de Ozon, Potiche, entre autres. Le jury sera présidé pas par n'importe qui, puisqu'il s'agit de John Malkovich, qui sera épaulé par Claire Chazal. Et puis on retrouvera dans les membres du jury Laura Smet, le réalisateur Lucas Bellevaux, qui a fait récemment son superbe Chez nous, l'écrivain Philippe Besson, la productrice Denise Robert, si je me souviens bien, qui est québécoise, le responsable éditorial de Canal Plus, Yvan Guyot, et puis Stéphie Selma, vous vous souvenez, c'est la belle jeune femme de 10%, absolument.
Et qui joue dans Les Ex aussi.
Et qui joue dans Les Ex, qu'on voit de plus en plus au cinéma. Dans un instant, on se retrouve pour notre séquence Le Débat, après une petite pause musicale. I gotta find myself, gotta find him now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. I gotta find myself, gotta find him now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. When I come to town for the last time, pull up in a fast car for the first time, I gotta say goodbye. He didn't see me cry. I got a million on my soul. I got better know me on my own. They put a bounty on my soul. Voilà, c'était notre petite pause musicale. Alexiane, A Million on My Soul, tiré de la bande originale de Valérian et la cité des mille planètes. Voilà, j'avais pas reconnu la musique. Dans un instant, donc, la question débat, réaction sur cinéma et bande dessinée, font-ils bon ménage?
La grande séance, le débat.
Alors, c'est à la mode quand même, les adaptations de bande dessinée Claire et Marla.
Oui,
parce
plus que jamais.
On attend les aventures de Spirou et de Fantasio, on attend un Gaston. Moi, j'avais vaguement entendu parler à un moment d'un Benoît Bricefer. Il y a eu Boule et Bill, qui n'a pas super bien marché. Je pense que le dernier opus n'a pas bien marché. Est-ce que, parce que c'est la mode, parce que c'est une marque. Quand vous mettez Spirou, Fantasio ou Gaston, les producteurs se disent, ça y est, c'est tout de suite reconnaissable. On n'a pas besoin de faire de la promo. Claire, vous êtes une spécialiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce qu'il faut le faire à tous les coups?
Ça peut être une très mauvaise idée.
J'aime bien vous l'entendre dire.
Parce qu'en fait, adapter une bande dessinée, c'est quelque part, enfin souvent, pour les scénaristes et les réalisateurs, on dit, ça semble facile. Donc on va dire que c'est plutôt une fausse bonne idée. Ça semble facile. Pourquoi? Parce que mettre une histoire en image, finalement, que ça soit un dessinateur de bande dessinée, un scénariste de bande dessinée, ou un réalisateur de film et un scénariste de long métrage, c'est la même démarche. Et une bande dessinée, finalement, on peut le voir comme un storyboard.
Absolument.
Donc, à partir de là, s'il n'y a aucune innovation, et en même temps...
Il faut s'écarter, quoi, de la bande dessinée.
Oui. Et en même temps, si on trahit l'œuvre pour aller vers autre chose, on risque de déplaire aux fans de la première heure de la bande dessinée. Et pourquoi alors se lancer dans cette aventure? À mon avis, c'est parce que, effectivement, déjà, on va attirer un public qui est plus un public de lecteurs ou vers les salles de cinéma. Et puis, donc, c'est ce public-là que, quelque part, on courtise.
Alors, dans cette séquence, on a pas mal d'interviews qui ont été faites par César Monterol lors du dernier, justement, festival de la bande dessinée d'Angoulême pour Séance Radio. Alors, on va écouter déjà la réaction à ce sujet de Pierre Christian et Jean-Claude Mézières, qui sont justement le scénariste et le dessinateur de Valérian, dont parlait tout à l'heure Luc Besson.
Tous les amateurs de bande dessinée sont des cinéphiles aussi. Évidemment que c'était tentant de dire, bah oui, enfin, va y avoir un film sur Valérian.
Bah, c'était qu'une demi-surprise, parce que ça faisait des années qu'il y avait eu des options qui avaient été posées. Donc c'était pas sûr, parce que c'était un film très cher, très compliqué. Donc je m'étais fait un peu à l'idée, moitié de façon optimiste et moitié de façon résignée. Ça, c'est mon côté noir qu'a pas Jean-Claude, du genre, on va crever avant que ça arrive, parce que ça va vraiment pas assez vite, quoi. Et puis ça s'est accéléré et je suis encore là pour le voir, donc j'étais doublement content en quelque sorte, hein, d'avoir survécu assez longtemps pour pouvoir visionner le film.
C'était d'abord Jean-Claude Mézières, ensuite Pierre Christin qui parlait, mais je vous propose, Marla et Claire, d'écouter aussi, parce qu'il a un avis assez tranché, différent, mais plutôt positif, Didier Tronchet, qui est l'auteur, qui est auteur de BD, qui avait créé le personnage de Jean-Claude à la BD, qui est un personnage récurrent, qui est très drôle, et qui avait réalisé lui-même le film d'après sa bande dessinée, qui s'appelait Le Nouveau Jean-Claude. Et lui, il a une idée plutôt positive de l'adaptation.
Le cinéma m'a offert une opportunité invraisemblable, c'est-à-dire que tout à coup, je ne suis plus sur une planche de dessin à essayer de créer un univers avec mes propres et pauvres moyens graphiques. Je suis avec une équipe de 60 personnes qui, tous dans leur domaine, sont extrêmement compétents. Et quand arrivent dans ce cadre-là les acteurs qui eux-mêmes apportent leur expérience, on a tous les moyens pour que l'histoire telle qu'on l'a imaginée soit bien plus... Souvent, les auteurs se disent déçus. Moi, c'est l'inverse. Je trouvais ça beaucoup mieux. D'ailleurs, avec l'outil ultime qui est le montage, j'ai refait un autre film encore. Autant de façons de procéder que la bande dessinée ne permet pas. Un album, on l'a fini, on ne revient pas sur les cases 1 et 2. Le cinéma permet toujours une évolution. C'est une histoire en mouvement. C'est cette vie permanente, cette plasticité de l'histoire que j'ai trouvé formidable, comme si l'histoire existait en dehors de nous et qu'elle se pliait à toutes les exigences qu'on lui donne pour arriver à vivre toute seule et à donner son meilleur résultat.
Voilà, c'était Didier Tronchet à propos de son adaptation de sa propre bande dessinée, et le film s'appelait Le Nouveau Jean-Claude. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marla?
Alors, je vais vous faire une réponse de Suisse. Ça dépend des fois.
Ouais, c'est-à-dire
que, effectivement, il y a des adaptations pas très heureuses. Je pense beaucoup à Astérix, qui coûtait souvent très cher. Et à part la version de Alexandre Astier récente, du Domaine des Dieux, qui était plutôt sympathique, je suis quand même assez déçue pour tout l'argent qu'on met dedans des films d'Astérix. Alors
oui,
après,
mais vous parlez de la BD, ou parce que l'adaptation en live de Chabat était plutôt bien.
Moi, j'ai oui, bien aimé, oui, moi. Ça avait beaucoup marché. Ça m'a fait plaisir pour le cinéma français à l'époque.
Vous n'étiez pas une fan.
Je suis pas vraiment fan. Je trouve l'humour du Derzo et Goscinny, bien sûr, malheureusement, qui est parti trop tôt, beaucoup plus efficace. Après, c'est peut-être moi, parce que j'ai toutes les BD à la maison. Je pense que les Anglo-Saxons sont peut-être meilleurs parfois que les Français pour adapter les bandes dessinées, même si ça fait plaisir d'entendre les auteurs et réalisateurs français qu'on vient d'écouter. Je pense à V pour Vendetta, par exemple, qui est une très très bonne BD au départ, qui date des années 80 et qui était à l'époque contre Thatcher. Oui. Et on en a fait au cinéma un film tout à fait réussi avec Nathalie Portman dans le rôle d'une jeune fille qui rencontre V, un homme anonyme qui porte un masque, le masque de Guy Fawkes, qui est ce symbole anglais de rébellion, celui qui a voulu faire sauter les maisons du Parlement à Londres un certain 5 novembre. Et il est toujours célébré en Angleterre.
Donc la BD, l'adaptation était bonne.
Vraiment, c'était extraordinaire, c'est très bien réalisé et j'ai même été plutôt ému à la fin, effectivement.
Alors un type de bande dessinée assez particulier, c'était Paulina et Bastien Viviès qui est auteur de bande dessinée. Son film Paulina a été porté à l'écran et lui pense qu'il faut laisser de la liberté au cinéaste. On écoute.
Une fois que tu signes une adaptation, il faut laisser le bébé à la personne qui va s'en charger, au réalisateur. Donc j'en ai juste parlé avec eux un peu au début. Parfois il m'arrivait de leur dire juste au producteur, attention, il y a ça, il y a ci, il y a ça et ça. Mais en gros, il faut leur laisser. Il faut que le réalisateur fasse son film, a une vision. Prendre des libertés, surtout il y a des contraintes dans la bande dessinée qui ne sont pas les mêmes contraintes que le cinéma. Il ne faut absolument pas calquer les contraintes dans la bande dessinée, vraiment c'est la pire erreur pour moi. Il faut se dire non, j'ai mon médium de cinéma, je vais exploiter à fond. Et je trouve qu'il y a des passages qui marchent particulièrement bien dans Paulina, qui n'auraient pas pu marcher en BD. Et pour le coup, moi, je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels et laisser faire les gens, quitte à, parce que parfois on dit des choses, on soit peut-être un peu déçu ou tout ça, mais il faut laisser faire.
Claire Fayot, vous êtes d'accord ?
Oui. Alors, il faut laisser faire ou alors il faut le faire soi-même. J'ai l'impression que quand des BDistes, comme on dit...
BDastes.
Les deux sont possibles.
Ah oui, les deux sont possibles.
J'avais vérifié.
Il n'y a pas de mal.
Donc, quand des dessinateurs et auteurs de bandes dessinées passent derrière la caméra, ça donne des films comme Persepolis ou encore Riyad Satouf qui s'essaie à la réalisation avec brio. Donc... Oui, mais je pense qu'après, quand on est auteur, écrivain, et qu'on voit son bébé, comme c'est le terme qui a été utilisé, je reprends, son bébé partir, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais il faut accepter d'avoir signé et de laisser, effectivement, le cinéaste créer son propre univers.
Alors, vous allez l'entendre, il y a un autre point de vue qui est très défendable, de Julien Niel, qui lui avait fait une jolie BD avec un petit personnage féminin qui s'appelait Lou. Et ça a été adapté sous le même nom au cinéma, on l'écoute.
Il y a des concepts comme ça avec, tu sais, des disques, des bandes dessinées qui sont vendues avec des CD de bandes son que tu écoutes et tout. Mais je trouve que c'est vain parce que, pour moi, le principe de la bande dessinée, justement, c'est que il y a un rythme par lecteur. C'est-à-dire que le cinéma t'impose un rythme, en fait. Et là, la bande dessinée, c'est très différent parce que le rythme, tu dois le suggérer et c'est le lecteur qui va le reconstituer. Donc, lui imposer une musique, c'est pas possible parce que tout le monde va avoir un truc différent. Tu peux pas dire le mec va lire cette case-là et cette phrase-là à telle impulsion musicale, tu vois. Donc, non, c'est assez vain.
C'est assez vain. Le mot de la fin, l'une et l'autre, sur ce débat, parce qu'on va voir cette année, dans les prochains mois, des adaptations de BD au cinéma, et puis ça va continuer parce que c'est vraiment la mode, quoi.
Oui, il faut laisser le cinéaste faire à son idée. Ça peut marcher, par exemple, pour Edgar Wright, qui a fait un très bon film qui s'appelle Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, contre le monde, c'est ce jeune homme qui, pour séduire sa belle, doit vaincre ses 7 ex maléfiques. On parlait des ex un peu en début d'émission, qui fait un beau succès au cinéma. Là, c'est des ex méchants qu'il faut vaincre, comme dans les jeux vidéo, avec plein de références pour les geeks, et le film est formidable.
Et ça a été porté au cinéma ou ça va être
Ça y est, ça fait quelques années. Ça a été porté, d'accord, je crois, en 2009 ou 2010, effectivement, et tous les fans d'Edgar Wright le trouvent formidable. Les fans de la BD sont souvent séduits parce qu'il y a plein de références aux jeux vidéo comme Mario Bros, par exemple, ou Mortal Kombat, et c'est très drôle.
Je voulais juste dire quelque chose. Il me semble que Darren Aronofsky s'est essayé à la bande dessinée pour Noé, c'est-à-dire pour vendre son projet du film Noé avec Russell Crowe. Il avait fait une bande dessinée auparavant. Donc voilà, il y a vraiment des connexions. Et enfin, dernière chose, Luc Besson a déjà réalisé une adaptation. Savez-vous laquelle ?
Non.
Une adaptation de bande dessinée, Adèle Blanc-Sec.
Ah oui, bien sûr, mais c'est évident. C'est une super bande dessinée, Adèle Blanc-Sec, magnifique. Ouais. Et comment le film avait été accueilli à l'époque ? Moi, je me souviens,
les
moyennement.
Les fans de Tardy n'avaient pas trop aimé, parce que c'est pas le même univers, encore
c'est
une fois.
C'est Fabrice Bourgoin
qui
jouait Adèle Blanc-Sec.
Oui, et Tardy est souvent adapté au cinéma, puisqu'il a été aussi adapté pour Avril Montrouquet. Non, moi, j'avais bien apprécié les décors et tout.
C'était pas mal, puis c'était fou. Il y avait des effets spéciaux, je me souviens. Ben voilà pour ce débat à propos de cinéma et de bande dessinée, mais vous n'en avez pas fini parce que vous allez voir pas mal de bandes dessinées adaptées, et puis surtout ce qu'on appelle la ligne claire, Spirou, Spirou, Tintin, ça on connaît, Fantasio, Gaston, et puis Gaston, Gaston Lagaffe va arriver aussi sur les écrans. Et le personnage qui va jouer Gaston, c'est l'un des fistus, un des comédiens qui joue les fistus. Oui. Et puis j'ai un petit scoop aussi à propos de bande dessinée et de Valérian, c'est donc Luc Besson a reçu un coup de fil de Xavier Dolan, qui lui a demandé s'il pouvait faire la voix de Valérian pour la version française. Donc ce sera Xavier Dolan, c'est chic, hein, oui, qui fera la voix de Valérian dans la version française.
Un nouveau talent à ajouter.
Et ça, c'est un scoop que nous a soufflé Luc Besson. Dans un instant, à propos de Luc, on va faire un blind test uniquement consacré à sa carrière.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Attention, Lola peut jouer aussi, hein. Spécial Luc Besson, on écoute, je sais pas si c'est des extraits de films ou de la musique, des extraits de films, on écoute.
Oula.
I like these calm little moments before the storm.
Ah, ça c'est Léon, c'est Gary Oldman.
Oui.
Léon, c'est pas en français, Léon.
Là, c'est en VO. C'est dommage pour nos amis. Moi, je suis anglophone, donc je triche.
Le calme avant la tempête.
Là, c'est dur. Ah, ça, c'est Gary Oldman, ça.
Là, il dit ça à Nathalie Portman.
Marla, bravo. Ah, attention, le deuxième. Le deuxième.
C'est pour qui?
Zvorobo. Borovo. Boromo.
Un prénom, peut-être?
Oui.
Qui est?
Ah, Andrej, avec un J. Comme Jardin.
J'ai toujours rêvé d'en avoir un.
Ah.
Ben enfin, Claire.
Justement,
vous venez d'en parler.
Adèle Blanc-Sec. Ah bah, vous, Adèle Blanc-Sec.
Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec.
Ça a l'air si joli.
Oh. Attention, le numéro 3.
Vous avez bonne mine. Vous étiez sur la côte.
Oui, c'est cela, oui.
Vous avez bien fait, parce qu'à Paris, il a plu sans arrêt. Je vous débarrasse.
C'est pas évident, hein.
Vous avez froid?
Non.
L'expression est.
Mais je vais pas rester longtemps.
C'était commode, ça aussi. Bon, le lendemain, je reviens. Racontez tout ça à votre voisin, parce que moi, j'en ai rien à branler.
C'est
Subway.
Mais c'est Subway, ouais, c'est pas Jenny, la voix.
Subway, mais oui, c'est la voix
qui joue dans
Subway. J'ai reconnu à l'obscénité de la fin,
voilà,
parce qu'effectivement, elle a
bien beau. Ah, le coquin,
elle a un rôle décalé, ouais.
Attention, le numéro 4.
Vous êtes un homme honnête, je le vois bien. Mais vous n'êtes pas le dauphin.
Ah, ça, c'est le grand bleu.
Non,
ça parle de dauphin.
C'est pas mal,
Pardonnez
vous n'êtes pas le dauphin. Le dauphin à la couronne.
Mais non, là, c'est le dauphin, c'est Jeanne d'Arc.
Vous n'êtes pas le dauphin.
Jeanne d'Arc.
Ridicule.
C'est pas mal, il a dû faire exprès des
dauphins.
C'est
quand même.
Ah, voilà,
j'avais pas
vu.
C'était. Vous n'êtes pas le dauphin, d'accord. Attention, le 5.
Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait?
Ah, bah, c'est ça qui est l'élément.
Il n'y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé.
Ah, les cinéphiles.
Il faut que ça pop.
Il est excellent.
Attention, le numéro 6.
T'en rends pas malheureux. Il y a tellement de femmes sur la terre. Tu sais ce qu'on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Pas vrai?
Fumer ici, c'est absolument interdit.
Elle est éteinte.
C'est rigoureusement interdit d'en avoir à bord.
À bord?
Écoute, c'est aussi rigoureusement interdit de pisser ici, non? Pourtant, on a
je ne connais pas du tout les voix, moi.
Pas vrai.
Curieux?
C'est aussi le grand bleu.
C'est le grand bleu.
C'est aussi le grand bleu, bah oui.
Mais c'est pas la voix de Jean Reno. Hein.
Bah non, non, c'est peut-être un autre
personnage.
C'est pas
la voix de Jean-Marc Barre.
C'est pas Jean-Marc Barre non plus.
C'est de quelle origine,
c'est une autre scène.
Et pourtant, c'est bien le grand bleu.
Et
attention,
voilà, bon, bah, très
le
bien.
7.
Regardons la glace. Qu'est-ce que tu vois?
C'est Nikita, ça.
C'est pas Nikita. J'aurais pensé aussi.
Ah, c'est
un film
qu'on a oublié.
À côté d'elle, qu'est-ce que tu vois?
Je crois qu'il était en noir et blanc, le film.
C'est pas THX, son tout premier?
C'est bien.
Non, c'est pas Besson.
Ah
bah non,
oui.
Bah non.
Là, on les a en Besson. Ouais, maintenant, au moins, tu vois plus rien.
Il y avait pas deux bouses dans celui-là?
Angela.
Angela.
Ah, c'est
pas oublié celui-là. Hein.
Ah oui,
ouais.
Attention, celui-là, je l'ai pas vu. Le 8.
Je ne ressens ni peur.
Version française.
Ni douleur.
Ça souhaite Nikita, alors.
Ni aucun désir.
Non.
Ni peur.
Tout ce qui fait de nous des humains semble s'éloigner de moi.
Lucie. Ouais, ça aurait pu être Nikita.
Quelle impasse, ça ressemble. En
plus. Je me sens humaine. Toutes ces connaissances, ce savoir.
Attention, le numéro 9.
Laisse-toi guider par le plaisir.
Ah, ça c'est Nikita, c'est facile, c'est Jeanne Moreau.
J'étais sympa, je vous ai pas demandé les dates, hein. J'aurais pu. Nikita, c'est quelle année?
Les années 80, mais.
90?
Non, 90, tout juste.
90, pile. Lucie, c'était?
Oula, il y a 2 ans. Il y a 3 ans.
J'ai déjà enlevé de ma carte mémoire ce film.
Il y a quoi?
Attention, le dernier.
Valerian, I've got you on visual.
Okay, but I've lost track of him. What's the shortest way there?
No,
northeast
113 degrees. It leads me straight into a wall.
You said you wanted the shortest way.
Let's do this.
Ah. Un film que j'avais envie de voir.
Valérian, du coup.
Valérian.
Ça vient de là. Ah, mais alors ça,
c'est pas vu encore.
Vous l'avez pas vu, mais vous auriez pu deviner quand
dans
même.
Les voix, bah, j'ai pas reconnu les voix de...
Dans Cara. Un instant, eh bien, dans un instant, c'est la fin de cette émission.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Donc, il me reste à remercier toute l'équipe de Séance Radio, même ceux qui n'étaient pas là.
On pense aux absents.
À vous remercier, Claire. Vous rappelez votre blog.
Merci, mais retrouvez-moi sur legenoudeclaire.com.
Et Marla, oui. Singer.
Vous me retrouverez sur Marla's Movies.
Et puis, chère Lola, rappelez-nous comment, évidemment, on peut se connecter avec Goom Radio et avec notamment Séance Radio, la grande séance.
Bah, comme vous l'avez bien
comme
dit,
vous m'avez...
sur les comptes Twitter et Facebook Séance Radio, et puis avec, là, en l'occurrence, le hashtag La Grande Séance, mais sinon, tout se passe sur Séance Radio.
Super, merci beaucoup Lola. Bon été à tous, bonnes vacances, plein de cinéma, même pendant les vacances, et puis on se retrouve à la rentrée.
Et oui, bonne séance.
Bonne séance à tous.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.